Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 3 du balado Repères. Nous avons avec nous aujourd'hui Véronique Meir et Sarah Michel du service aux étudiants. Nous allons parler aujourd'hui de la conciliation études-vie de famille. Alors Véronique, je te laisse te présenter.
Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Véronique Meir dans l'équipe du soutien à l'apprentissage.
Oui, moi, c'est Sarah-Michel Barrette. Je suis dans l'équipe du service de psychologie. Je suis technicienne en intervention psychosociale.
Alors oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu là, de la réalité de la vie, famille et études. Hein, donc, de concilier tout ça, là, c'est pas tout le temps simple. Donc, Véronique, peut-être commencer là, un peu à nous dire rapidement quelles sont les difficultés qu'un étudiant parent peut rencontrer pendant son parcours étudiant.
Oui, donc, en fait, la première difficulté qu'on voit, c'est qu'il y a des étudiants qui sont bien distincts ou des groupes d'étudiants qu'on distingue dans les études universitaires, comme les étudiants internationaux, ceux des premiers peuples ou les étudiants en situation de handicap qui, eux, avec les années, ont eu des services qui se sont développés spécifiquement pour eux. Tandis que les étudiants parents, eux, il n'y a pas encore, peut-être qu'il y en aura un jour, des services vraiment dédiés à eux. Bon, sont un peu dans la même situation que la majorité des étudiants lambda là, qu'on retrouve dans nos universités, mais quand même, ça peut être une difficulté pour eux parce qu'ils ne peuvent pas se tourner vers un service pour répondre à leurs questions. Alors, c'est d'apprendre, de voir, de se promener, de voir qu'est-ce qui est disponible, de se promener sur le site de l'université. Et pourtant, ils font face aux mêmes difficultés que les étudiants généraux, c'est-à-dire comprendre mes cours, gérer mon horaire, être capable de me concentrer. Mais leur situation de père, le fait qu'ils sont parents, se complexifie au niveau de leur charge familiale, aussi des charges financières souvent auxquelles ils ont à faire face, et aussi de l'horaire qui peut être plus compliqué quand un enfant tombe malade ou qu'il arrive quelque chose dans ce type. Donc, leur horaire chargé fait qu'ils peuvent moins facilement tisser des liens avec leurs collègues de classe et également, c'est plus difficile pour eux de profiter des activités parascolaires, de s'intégrer dans une association étudiante ou toutes sortes d'autres formes d'implication.
Oui, participer aux parties, puis tout ça, là, comme on voit sur le campus, les parties de la rentrée, le foam party, puis tout ça, là, ouais.
Exact. Puis en même temps, moi, j'aurais envie d'ajouter peut-être une petite statistique dans tout ça. Là, ce que j'avais vu dans mes recherches, c'est que dans tout le réseau UQ, les étudiants parents représentent à peu près 25% là, des étudiants. Fait que c'est quand même une large proportion là, de ces étudiants-là qui sont parents, qui vivent cette réalité-là. Donc, peut-être, oui, effectivement, se questionner s'il n'y aurait pas un service qui est spécifique à eux qui pourrait éventuellement leur être offert.
Et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que en fait, ce ne sont pas les seuls à vivre ça. Il y a des étudiants aussi de tous les types qui peuvent aussi avoir de la difficulté à avoir des liens avec des collègues de classe ou à participer à la vie étudiante de façon générale. Donc, je voulais juste apporter la nuance. S'il y a des étudiants qui se disent « Tiens, je vais écouter ça, le podcast. Moi, je ne suis pas étudiant parent, mais j'aimerais ça savoir un peu c'est quoi leur situation. » Bien, ça se peut que vous aussi, vous vous retrouviez dans des éléments là, qu'on va vous nommer pendant ce podcast.
Bien sûr. Donc, ce que je comprenais aussi, c'est que, ben, en fait, la motivation là, aux études, ça fait partie d'un de leurs gros atouts. Hein. Souvent, ces étudiants-là sont très, très motivés parce qu'effectivement, ils ont quand même une réflexion de plus à y avoir. Donc, de dire, ben, je quitte un emploi pour retourner sur le marché du travail, sachant que j'ai des enfants à ma charge. Ou encore de dire, ben, oui, les enfants sont peut-être venus avant le projet d'études. Donc, là, il faut quand même que je me relance dans quelque chose qui est quand même assez prenant dans mon horaire. Donc, motivation fait beaucoup partie là, d'un atout, en fait, dans ce que je comprends là, dans leur projet d'études, finalement.
Oui, c'est effectivement un facteur clé. C'est sûr que pour se rendre sur les bancs universitaires, souvent, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie pour la majorité des étudiants, évidemment, là, qui reviennent aux études, à tout le moins, donc qui ont discuté avec leurs conjoints et conjointes, les enfants, l'employeur, qui sont déterminés à revenir. Il peut y avoir parfois des étudiants qui deviennent parents pendant leurs études ou qui tombent enceintes à un moment ou à un autre ou qui adoptent ou peu importe. Donc là aussi, c'est de voir est-ce que je continue avec tout ça. Puis quand ils décident de continuer, la motivation est vraiment présente. Donc, ce n'est pas un problème là, pour eux là, de chercher cette motivation-là. Oui, ils peuvent avoir des baisses de motivation comme n'importe quel étudiant. Mais généralement, quand on les rencontre, Ils veulent réussir, ils veulent pas que ça soit trop long non plus, réussir leur projet d'études, ils sont déterminés.
Mais oui, le fait d'avoir une famille, ça aide à se projeter un peu dans le futur parfois. T'sais, on se dit, OK, bon, mais là, j'ai des enfants, il faut que je subvienne à leurs besoins, il faut que je sois un protecteur pour ma famille, fait que ça peut être une motivation pour justement accomplir des choses, obtenir un diplôme, avoir un emploi qui fait du sens pour nous, là. Oui, c'est clair qu'au niveau de la motivation, c'est un facteur de protection pour la majorité des parents étudiants, là.
Parfois, j'ai même entendu, moi, de mon côté, que c'est ça, d'enfant, d'avoir une famille à subvenir, de dire, bien, moi, j'ai besoin d'une stabilité au niveau de l'emploi. Je travaillais comme, exemple, dans les restaurants, par exemple, puis là, bien, les horaires fonctionnent moins bien, ou bien là, tu sais, l'orientation, la réorientation est parfois nécessaire dans ces situations-là. Donc, oui, je pense qu'effectivement, des fois, c'est de se ramener un peu à la motivation en dessous du projet. Hein. Qu'est-ce qui a motivé la mobilisation vers un projet étudiant? Donc, Véronique, rapidement, quel serait peut-être pour toi, là, dans ton expertise, les petits trucs ou des petites astuces là, pour mieux composer avec la réalité de parents?
Oui, donc tantôt, je parlais du fait que souvent, hein, ils ont une lourdeur au niveau des finances qui peut être là, comme Jessica, tu le nommais. Bon, des fois, ils vont se réorienter parce que l'emploi qu'ils avaient, ben, c'était pas assez là, pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir l'aide financière disponible. S'il y a des bourses auxquelles vous pouvez avoir accès, allez voir. À l'université, il y a énormément de concours de bourses et il y en a plusieurs qui ne sont pas donnés parce que les gens n'appliquent pas en pensant qu'ils n'ont pas le profil. Donc, de vérifier ça ou ils ne les connaissent pas. D'aller voir auprès de votre institution financière s'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose d'autre pour vous aider. De vérifier avec le conjoint, la conjointe, voir qu'est-ce qui est possible aussi de faire là. Et au service aux étudiants, on a également à l'aide financière un service d'aide au budget. Donc, si vous avez besoin de revoir un peu vos dépenses, si vous êtes aussi monoparental, hein, je parle beaucoup de conjoints et conjointes, mais il y en a aussi qui sont seuls, évidemment, bien là, c'est sûr que des fois, ça peut être quelque chose qui va, même si on a toute la motivation du monde, bien, quand on a des soucis financiers, ça peut devenir très, très lourd à gérer et faire en sorte qu'on est moins concentré parce qu'on se soucie là, de ça.
Effectivement, puis j'aurais le goût de rajouter par rapport à ça, toutes les ressources dans la communauté, il ne faut pas les oublier. Là, Sarah Michel, je sais qu'elle est très...
Oui, bien, il y a les IMAF, là, il y a les infirmières qui font des visites à domicile, qui peuvent justement entrer en contact avec les familles, faire des évaluations au niveau des besoins, diriger vers les ressources qui peuvent aider financièrement, comme les banques alimentaires. Souvent, un gène qui est associé au fait d'utiliser les banques alimentaires, mais avec le coût de l'épicerie aujourd'hui, je pense que, tu sais, ça arrive des fois qu'on soit un peu plus serré, puis qu'on puisse... avoir besoin de bénéficier de ces services-là. Donc oui, eux, ils peuvent faire le référencement. Puis sans IMAF, on peut nous-mêmes faire la demande pour avoir accès aux banques alimentaires. On en a une ici à l'université, Bon Camarade. Il y en a aussi avec Moisson Mauricie dans différents quartiers à Trois-Rivières. Il faut faire affaire avec eux. Ils vous disent vers où vous dirigez. Mais ça peut être une ressource qui est quand même intéressante aussi, là.
Tout à fait. Puis aussi toutes les applications, là, nouvellement, qu'on...
Oui,
pop, là, nouvellement,
Food Hero, ceux qui sont bons pour faire du couponing. C'est pas le cas de n'importe qui. On n'a pas toujours le temps, mais tu sais, Food Hero, Too Good To Go, des applications qui permettent de manger de la nourriture à rabais. Puis tu sais, tout ce qui nous aide aussi, tu sais, les circulaires, tu sais, il ne faut pas hésiter à fouiller puis à trouver ils sont où les bons deals pour pouvoir se faire des repas qui font du sens puis faire une épicerie qui est le moins cher
possible. Des fois, c'est de cuisiner possible avec les rabais, hein, de la semaine. On tricote un peu avec ça. Aussi, tous les organismes là, au niveau des vêtements, les bazars, les marchés, pas hésiter là, aller s'asseoir, tourner vers ces ressources-là.
En plus, c'est écologique, tu sais, le second main.
Ben oui.
Fait que non seulement c'est économique, mais c'est aussi écologique. Fait que c'est vraiment une... Ouais, se diriger vers les friperies, ça peut être aussi une belle option pour tout ce qui est vêtements, meubles et compagnie, là.
Effectivement. Bien, tout à fait. Merci beaucoup.
Beaux ajouts, effectivement. Là, tout ça peut aider. Il ne faut pas avoir honte. Aller chercher ce dont on a besoin, se renseigner. Il y a beaucoup plus de choses qui sont disponibles que ce qu'on pense aussi. Aussi, bon, ben c'est sûr, faire garder les enfants au bon endroit en fonction de nos besoins. Donc, voir si on a un service de garde, est-ce que l'horaire est flexible? Est-ce que parfois, des fois, en milieu familial, les personnes responsables peuvent être disponibles un peu plus longtemps ou un peu plus tôt, de voir si ça vous convient. À l'université, on a le petit bac, la halte garderie aussi, qui est disponible autour des cours. Ou c'est sûr, demander l'aide des proches, des amis, des membres de la famille, les voisins, les voisines, c'est possible de garder une fois de temps en temps ou de rendre ça un peu plus fixe dans le temps si vous en avez qui sont vraiment prêts à se commettre là, un peu, là, donc qui diraient « Moi, tous les jeux du soir, je suis prête à garder. » Bon, ben vous savez que vous avez ce moment-là disponible pour étudier ou équilibrer là, dans votre vie là, avec ce que vous avez besoin.
Et à ça, j'ajouterais d'accepter l'aide. Hein, parce que des fois, on...
Ça prend un village.
C'est ça, exactement. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'ose pas demander » ou « Elle m'a pas proposé » puis là, j'ose pas accepter sa demande. On accepte. Hein. Des fois, c'est de tasser un peu l'ego puis de se dire « On accepte, on en a besoin, ça fait du bien, ça ajoute à l'équilibre de vie. » Donc, oui, demander de l'aide, accepter l'aide. Il y a aussi toutes les garderies là, à horaires atypiques. Mm-hmm. On en a quelques-unes dans la région. Là, je vous inviterai à peut-être regarder là, sur Google, aller voir, taper ça sur horaires atypiques, garderies. Il y en a quelques-unes. Ça permet justement tu sais, d'avoir des petits temps de garde à coût moindre puis d'avoir du temps parce que souvent, le temps est un enjeu assez majeur là, dans la conciliation famille-études.
Oh oui, ça en est un bon... au niveau de la maison aussi, organiser un coin jeu, c'est sûr que ça dépend. Il y a plein de nuances à apporter là, en fonction de l'âge des enfants. Là, mais bon,
oui, il y a autant c'est... de besoins qu'il y a de famille. Là.
Exactement. Fait que si vous vous retrouvez là-dedans, donc un coin jeu ou un bureau de travail, entre guillemets, là, pour enfants à la maison. Donc, des petites précisions, des choses des fois qui peuvent aider au niveau des coins jeu. Des fois, on a tendance à mettre tout ce qu'on a à cet endroit-là. Des fois, ça devient... très, très, très bordélique. Là. C'est normal que ça soit bordélique minimum.
Ça stresse. Quand on voit le bordel, comme parents, on est stressé, on se dit « il faut que je ramasse
». Donc, c'est de varier, d'alterner, de ramener des vieux jeux, d'en ajouter des nouveaux. Des fois aussi, de mettre comme des bricolages spéciaux à faire ou ajouter des surprises. Donc, pour maintenir l'intérêt des enfants dans ce coin-là, on sait que... les enfants sont portés plus vers les tablettes, les téléphones et compagnie, mais c'est sûr que dès le plus jeune âge, si vous les invitez à jouer par eux-mêmes, à faire preuve de créativité, d'imagination dans les jeux qu'ils font, bien, vous allez avoir moins à les occuper. Là. Mais bon, c'est sûr que ça dépend beaucoup aussi du tempérament de chacun. Pour ce qui est du bureau de travail, entre guillemets, bien, des fois, ça peut être le fun, l'enfant qui a une table ou un petit bureau sur lequel il peut faire ses bricolages ou ses trucs. C'est comme un peu comme papa-maman. Donc, il fait un peu le miroir. Puis, des fois, bien, ça peut l'aider là, à être un petit peu plus concentré, à être là aussi. Donc, ça fait différent. Et pourquoi pas, si c'est possible, si ça ne vous demande pas plus... à faire, bien, d'inviter un ami ou un petit cousin, une petite cousine, quelqu'un, un enfant qui pourrait venir jouer avec le vôtre, là, des fois, pour les... ils s'occupent bien vite entre eux, hein, donc ça pourrait être une bonne option aussi. Quand vous revenez de l'école ou quand vous revenez du travail, voir d'abord aux enfants, donc prendre le temps d'arriver, leur demander comment s'est passée leur journée, est-ce qu'ils ont découvert des nouvelles choses, est-ce qu'il y a des trucs qui les ont surpris, comment ils se sentent, si les enfants sont plus petits, évidemment, qu'ils ne parlent pas encore et tout ça, prendre le temps de les cajoler, d'être avec eux, vraiment de les prendre.
Ah oui, puis ça leur fait du bien à eux, mais ça fait du bien aux parents aussi.
Oui, ça déculpabilise, hein, des fois aussi, quand on est étudiant et parent, l'horaire est tellement chargé. Puis on dit « Ah, je vois pas tout, je suis pas là si souvent que j'aimerais l'être. » Bon, ben
puis le cytocine, quand on fait un câlin à quelqu'un, là, ça, c'est bon là, pour le moral puis le bien-être aussi. Là, ouais.
Des bons gros câlins, donc des moments de qualité, ce qui fait que si après, mettons, dans la soirée, on n'a pas le choix, il faut étudier pendant que les enfants sont encore réveillés, admettons qu'on est en période d'examen ou qu'il y a un rush à faire ou des trucs à faire pour le travail, bien, ils vont être plus enclins à nous laisser faire puis ils vont être moins fâchés parce qu'on a pris un moment de qualité avec eux.
On a rempli leur petit bocal d'amour hein, qu'ils ont besoin périodiquement. Effectivement, puis j'aurais le goût d'ajouter aussi là, tout ce qui est communiquer adéquatement là, avec les enseignants et les employeurs sur nos besoins à nous comme étudiants. De dire, bien, moi, je suis étudiant, je vais peut-être avoir besoin de plus de temps, de libération, ou par rapport aux enseignants, bien, j'aurais besoin peut-être d'une extension au niveau d'un travail à remettre, peut-être de préparer un examen. Donc, eux, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas deviner que vous êtes parent étudiant. Donc, de les informer de ça, de vos besoins, de formuler des demandes. Peut-être qu'ils ne seront pas acceptés, mais à tout le moins, ils seront au courant. Puis, ils pourront peut-être faire plus de preuves d'indulgence par rapport à une remise de travail ou quoi que ce soit.
C'est difficile, hein, des fois, d'informer les gens de nos vulnérabilités puis de se dire, ah, j'ai besoin de plus de temps, j'aurais besoin de peut-être avoir des accommodations là, pour moi parce qu'en ce moment, j'y arrive puis moins. Fait que des fois, on dirait qu'il faut compiler un peu sur notre orgueil pour le faire. Ça devient comme un défi de demander cette aide-là à l'employeur ou aux enseignants. Mais pour vrai, c'est des humains qui sont déjà passés par là pour la majorité aussi, qui ont déjà eu des enfants, puis qui habituellement sont quand même somme toute compréhensifs quand on va les voir, puis on leur parle de notre réalité, de notre contexte de vie, puis qu'on dit « Hey, en ce moment, je me rends compte que j'en ai beaucoup, j'aimerais adapter mes heures de travail, est-ce qu'il y a des modalités que je pourrais prendre par rapport à ce travail-là, à cet examen-là? » Bien, Crémy, habituellement, ils sont compréhensifs, fait que ça vaut la peine là, de se diriger vers justement ces personnes-là autour de nous, puis de parler de notre situation. Là.
Exactement.
Oui, fait que la communication constante, c'est vraiment important avec les enseignants, les collègues de classe aussi, si on a des travaux d'équipe à faire, l'employeur et la famille. Donc, la communication, c'est vraiment avec toutes les personnes qui sont impliquées là, dans notre réalité d'étudiants-parents. On peut aller discuter dès le début de la session un peu avec nos enseignants de notre situation. Oui, la plupart se montrent très compréhensifs, mais ça reste quand même qu'il y en a qui pourraient être un peu plus fermés, qui ont l'équité un peu plus générale là, en tête, en guillemets, effectivement. Oui. Donc, ça peut être bien de le dire, mais si vous avez des empêchements majeurs, que vous ne pouvez pas participer à un examen parce qu'il y a quelque chose ou un travail de session que vous devez remettre plus tard, des fois, on peut vous demander un billet médical, puis même là, il y en a qui arrivent avec le billet médical. Ça se pourrait que ça passe pas. Donc, c'est quand même bon d'avoir ça en tête parce que ça fait partie de ce qui pourrait se passer, mais de communiquer puis de le dire, c'est sûr que là, on rend les gens au courant. Par rapport à la communication, je dirais aussi que c'est vraiment important quand les périodes de pointe s'en viennent à mi-session, fin de session, d'aviser notre famille, d'en parler avec notre famille, des fois de mettre à vue un calendrier où on voit là, ce qui s'en vient. Puis de dire, tu sais, écoute, là, cette semaine-là, ça se peut que je sois un petit peu moins disponible. Je vais tout faire ce que je peux. Je t'aime pareil, t'es là. On va prendre des moments ensemble. Mais tu sais, ça se peut que je sois un petit peu plus stressée. Puis tout ça. Donc, l'exprimer dans les mots que vous savez que votre enfant va comprendre là, votre situation. Puis avec votre conjoint, si vous en avez un, bien vraiment de voir est-ce que c'est possible d'alléger les tâches. Les enfants aussi peuvent aider dépendant de l'âge qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on peut organiser autrement au niveau des repas. Est-ce qu'on peut faire plus de plats congelés la fin de semaine avant, puis moins se casser la tête à avoir à cuisiner pendant la semaine? Ou quand tantôt, on disait accepter des fois qu'on ne peut pas être super en tout temps, bien de dire il y aura peut-être un petit peu plus de resto ou un peu plus de plats préparés venant de XY endroit.
Ça se peut que le linge soit pas plié cette semaine.
Oui, exactement.
Ça se peut qu'on mange des toasts pour souper, puis ben c'est
ouais. Bien correct. Ouais. C'est ça. Donc, pour que ça se passe quand même assez bien, fait que c'est vraiment de voir souvent les choses venir. Puis quand on a des grosses périodes comme ça, ben on pourrait penser, le système de récompense, c'est vraiment le fun. On peut dire, quand je vais avoir terminé ma semaine d'examen, là, si pour tout le monde, on trouve que ça s'est quand même assez bien passé, on pourrait faire telle sortie ou un cinéma à la maison ou n'importe quelle activité là, qui vous plaît.
Tout à fait. C'est toutes des bonnes idées, en fait, que tu nous amènes, Véronique. Merci pour ces trucs-là. C'est très collé, je pense, à leur réalité et à leur vécu, finalement. Si on va plus au niveau des méthodes d'études plus efficaces, parce que la charge mentale d'être parent étudiant vient aussi avec une diminution de la capacité de concentration, la capacité aussi d'emmagasiner du nouveau matériel. Donc, comment faire pour être somme toute efficace dans nos apprentissages, malgré que notre cerveau soit déjà bien rempli de plein de choses.
Oui, donc la surcharge mentale, c'est généralisé hein, quand on est parent, là, autant à ce qu'on a à faire à la maison, mais aussi les études qui peuvent prendre beaucoup de place dans les périodes de pointe, mais aussi quand on se sent plus vulnérable parfois. Donc, c'est sûr que le truc le plus simple qu'il y a, c'est vraiment de prendre l'habitude d'écrire, sortir de sa tête, que ce soit papier, crayon ou application, peu importe là, la méthode qui vous convient. Allez-y vraiment avec quelque chose qui vous parle et centraliser l'outil. En fait, c'est les fameuses listes. Hein, là, quand je parle d'écrire ce qu'on a en tête, c'est plus pour qu'est-ce que j'ai à faire. Mais je peux aussi avoir à côté un brain dump ou un brain drop, peu importe, là, quelque chose, un calepin dans lequel j'écris mes pensées qui m'envahissent ou les trucs que je veux pas oublier.
Un brain dump, hein, j'adore.
Un brain dump.
Nos inquiétudes, hein, c'est ce que...
Exactement, ou les préoccupations.
Ouais. C'est ça, c'est bon pour les tâches, mais c'est bon aussi pour le stress, l'anxiété, là, les pensées distorsionnées qui nous viennent, mais on peut les écrire là, pour les déposer quelque part aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime le terme « brain dump ».
Ça
nous permet de prendre aussi un peu un recul, là, comme tu dis, là, par rapport à tout ce qui est pensée un peu distorsionnée ou irrationnelle, de dire « ah ouais, c'est ma fameuse pensée de... » Souvent, c'est les mêmes qui tournent dans notre tête. Ouais. Donc, ah ouais, c'est ma fameuse pensée. Puis là, on se prend, déjà, ça prend une distance. OK, c'est là, c'est droppé là. Puis on n'y pense plus ou on y pense moins. À tout le moins, ça prend moins de place.
Exactement. C'est l'effet magique que J.K. Rowling a créé dans Harry Potter avec la pensée de Dumbledore. C'est exactement la même image.
C'est-tu les oubliettes, je pensais? En tout cas, peu importe, mais oui, la pensée de Dumbledore.
Ouais. Donc lui, qu'est-ce qu'il voulait se souvenir ou revoir plus tard? Il sortait de sa pensée ou de sa tête avec sa baguette magique. Bien, c'est le même principe d'écrire les choses. Fait qu'il faut vraiment... Ça, c'est bon pour tout le monde, là. En fait, quand on se dit « c'est correct, tout est dans ma tête, j'oublie rien, tout est là », bien, la semaine où vous allez moins bien, comme je le disais tantôt, on se sent vulnérable, où il nous arrive plein d'affaires ou des imprévus comme vraiment qui nous terrassent là, ou qui vraiment nous surprennent ou nous rendent en colère ou triste ou peu importe, bien là, ce qu'on a dans la tête devient teinté de tout ça. Puis des fois, bien, on oublie. Là, c'est là qu'on oublie, puis c'est là qu'on se reconnaît plus. Donc, écrire vraiment ce qu'on a à faire. Donc, si on parle plus principalement de l'outil liste, le fameux outil liste, donc comme je vous le disais tantôt, centraliser tout ça dans un outil qui vous convient. Des fois, ça prend plusieurs essais pour trouver ce qui nous plaît le plus. Mais moi, ce que je recommande pour les listes, c'est la faire en deux temps. Donc, en début de semaine ou à un moment dans la semaine qui pour vous représente « je m'organise pour la semaine », prenez une dizaine de minutes où vous allez écrire, soit papier-crayon ou dans votre application, peu importe, tout ce que vous avez à faire pendant la semaine, sans prioriser, sans rien en faire, juste je le sors, je le mets sur une feuille. Des fois, je dis à mes étudiants, mettez-vous de la bonne musique, là, puis laissez sortir tout ce que vous avez en tête. On met ça là, puis après, on le reprend, puis là, on peut prioriser, on peut fractionner des choses, on peut ajouter des choses qui ne sont pas sorties la première fois. Et la liste, on la fait pour une semaine à la fois. C'est pas la liste du Père Noël, là. C'est pas une liste qu'on va rajouter. C'est, OK, pour cette semaine, qu'est-ce que je me vois faire? Et à chaque jour, je réévalue ma liste, je m'adapte, j'ajoute des choses, j'en enlève, des choses que j'aurais voulu faire que finalement, je me rends compte que c'est pas si prioritaire.
Véronique, je me questionne pendant que tu parles, Est-ce que tu conseilles un agenda, tu sais, de mettre un petit peu à tous les jours une tâche ou de juste faire une liste complète des choses à faire, à la limite de l'écrire, OK, ça lundi, je vais le faire, je vais faire cette tâche le lundi, je vais faire cette tâche le mardi. Comment tu vois ça?
En fait, ça, c'est l'outil. Quand tantôt, je disais, choisissez l'outil qui vous convient. Oui. Donc, si pour vous, dans un agenda, c'est plus facile de le voir au jour le jour, ça peut être dans un outil agenda. Mais dans le fond, la liste, c'est plus le concept. Donc, dans quel outil je vais le mettre ensuite? Fait que l'agenda, ça peut être une bonne façon. Il y en a qui ont besoin d'être vraiment plus organisés, qui ont besoin que ça soit vraiment plus clair. Il y en a qui vont mettre des journées. Il y en a qui vont attribuer des tâches à des journées.
Un planificateur mensuel. Mm-hmm. Fait qu'à chaque mois, je fais mon calendrier pour le mois avec ma to-do, mes trucs à payer, puis pour chaque jour, les activités spéciales. C'est sûr que là, en ce moment, je suis pas aux études, mais je l'ai été il n'y a pas si longtemps. Puis j'utilisais ça aussi. Là. Fait que oui, le principe, c'est ça reste d'écrire, de mettre sur papier.
Exact.
Qu'on le fasse dans un agenda, un brain dump, je vais utiliser ce terme-là toujours, mais un cahier qui n'est pas structuré ou dans un planificateur.
Il y en a que c'est sur un tableau au mur, il y en a que ça va être comme à l'université, vous avez accès à Outlook, il y en a qui aiment bien l'outil Outlook. Donc, c'est sûr que la liste, c'est vraiment pour vous aider à savoir quoi faire. Donc, plus c'est fractionné, plus c'est facile pour vous de dire, OK, je fais ça, pas ma lecture du chapitre 23, bon, ma lecture du chapitre 23 a 30 pages, je pense que je peux lire à peu près 10 pages par bloc. Donc, c'est plus facile après de vous engager dans la tâche quand on décortique dans le deuxième temps là, notre liste. Fractionner, ça permet une plus grande flexibilité aussi parce que là, dépendant du temps qu'on a devant nous, ben, on peut vraiment choisir des objectifs qu'on peut atteindre en fonction du temps qu'on pense. Puis, c'est sûr que la liste, ben, ça vous prend quand même un outil très général de toute votre session. Moi, je vous recommande d'avoir un calendrier ou un planificateur, que vous voyez vraiment tous les mois au complet pour voir vos objectifs long terme, vos évaluations, vos examens, parce que la liste reste un outil plus court terme. Et pour pas que ça devienne stressant, on recommande vraiment de s'en tenir à une semaine à la fois à la fin de la semaine, je reprends ma liste. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses que je remette à la semaine suivante. Mais puis si je remets trop souvent quelque chose, ben je peux me dire demain, c'est la première affaire qu'il faut que je fasse.
On la priorise. Puis en même temps, il y a l'effet de la liste, on peut cocher, on peut rayer, fait qu'on voit l'évolution, je présume aussi de crimbine, j'ai été bonne.
On suggère de ne pas effacer, tu sais, de garder quand même des choses qui sont accomplies sur la liste pour qu'on puisse voir qu'on a été capable de faire certaines choses pour pas qu'il y ait sur la liste, il y ait juste des choses qui ne sont pas complétées, mais qu'il y en ait aussi qui ont été faites, puis qu'on puisse avoir comme un aperçu de nos succès, nos réussites, nos accomplissements, là, un peu, si on veut. Là.
Oui, puis comme le disait Louis-José-Houd dans un de ses spectacles, il n'y a pas de police de la liste. Hein. Lui aussi fonctionne avec ça. Puis des fois, on pense qu'on n'a rien fait dans notre journée, puis finalement, quand on y pense, on fait comme crime, mais j'ai réglé bien des affaires. Bien, vous pouvez les ajouter et les barrer par la suite.
Oui, c'est bon.
Il y en a que ça les motive vraiment, là, barrer ou avec les applications quand ça fait ding, quand on l'a fait, ou bon, le son satisfaisant qui vous convient. Là. Mais l'outil liste, c'est vraiment un outil facile à utiliser pour tout le monde. C'est vraiment juste de trouver votre médium, comment ça vous convient de le faire. Et bien là, je vous ai parlé beaucoup de listes, en fait, en mode to-do, là, ou de choses à faire. Mais moi, j'aime beaucoup aussi l'idée de la to-do, T-O-U-T-D-O-U-X. Donc, aussi la liste douceur. Donc, je recommande à mes étudiants dans leur liste de s'écrire aussi des idées de pause, de récompenses, de trucs plaisants qu'ils aimeraient faire pendant la semaine pour maintenir l'équilibre. Encore là, puis que la semaine compense à nous.
J'adore cette idée-là parce qu'effectivement, c'est souvent la tâche, je vais dire tâche, là, sur notre liste d'affaires qu'on esquive, qu'on ne prend pas le temps de faire. Et c'est pourtant cette tâche-là, le doux, hein, le tout doux, D-O-U-X, qui vient justement rétablir notre équilibre, qui vient nous faire du bien, qui vient nous permettre de se dégager, de se décharger. Donc oui, j'adore l'idée d'ajouter à cette liste-là un petit moment de douceur, un petit moment de « je prends soin de moi ».
Oui, puis tu sais, prendre soin de soi aussi dans le sens, ben mes pauses. Qu'est-ce que j'aimerais faire pendant mes pauses? Des fois, on se laisse aller, puis là, le truc spontané, quand on étudie, c'est rester assis, sortir le téléphone. On voit beaucoup d'étudiants qui font ça. Bien, c'est sûr qu'on a des pauses maison qu'on peut faire là, pour avancer dans des tâches. Mais on pourrait se dire, par exemple, bien, toutes mes pauses du matin, c'est des tâches. Puis toutes mes pauses l'après-midi, c'est des trucs que j'aime.
Mm.
Ou peu importe, c'est une suggestion comme ça, mais c'est vraiment d'alterner les types de tâches, de pauses qu'on prend.
S'offrir une vraie pause,
là. Oui.
Mm. Puis ça me fait penser, là, c'est un concept que j'utilise beaucoup avec mes étudiants, mais les types de repos, parce que souvent, quand on demande à un étudiant comment tu te reposes, il va avoir beaucoup le repos physique. Fait que, tu sais, je fais une sieste, je me dépose quelque part, je vais scroller sur mon téléphone, ce qui devient un peu du dumb scrolling, qui n'est pas nécessairement un repos. Mais les types de repos, c'est important d'en avoir plusieurs dans son quotidien. Oui, OK, faire une sieste, un repos physique, des fois, c'est de ça qu'on a besoin, mais des fois, on a besoin d'un repos créatif. On a besoin de lire, d'écrire, de dessiner. Puis, tu sais, t'es pas obligé d'être un artiste, là. Tu peux dessiner un dessin pour enfants avec des crayons de cire, si tu veux, tant que tu puisses créer à un moment ou un autre dans ta journée, dans ta semaine. Il va y avoir des repos qui vont être des repos plus sensoriels. Fait que, tu sais, les étudiants sont beaucoup devant leur écran, devant leur téléphone. Bien, un repos sensoriel, c'est un repos pendant lequel t'es pas en train d'écouter de la musique ou de regarder un écran. T'es juste dans, comme, l'absence de bruit ou de stimulation pour profiter, justement,
du silence.
Oui, du silence, de ne rien faire, là, tu sais, le faire le rien, là, c'est super bénéfique aussi là, pour le cerveau. Il va avoir les repos émotionnels, que ça va être de se permettre un moment pour se poser la question « comment je me sens? C'est quoi les émotions que j'ai vécues aujourd'hui? » Puis connecter un peu avec son vécu émotif. Fait qu'il y a plein de types de repos. Et, j'essaie là, d'y penser vite, le repos créatif, repos sensoriel, repos émotif, repos physique. Il va avoir le repos social, s'entourer de gens qui nous font du bien. Bon, bien là, j'ai juste été avec d'autres étudiants. Puis quand on est ensemble, on fait juste parler de nos travaux, on fait juste parler de nos examens. Ça me fait pas nécessairement du bien. Est-ce que je peux voir des gens avec qui, là, je vais connecter par rapport à d'autres choses, avec qui je vais partager un moment d'intimité? Fait que, c'est se varier un peu, là, tu sais, comme ça me fait penser à ça, là, ce que tu dis. Oui, OK, je prends une pause. Qu'est-ce que je fais pendant ces pauses-là? Est-ce que c'est varié? Puis est-ce que ça me permet de me reposer de différentes façons pendant ma journée aussi, là?
Puis ça, c'est quelque chose de le fun qu'on fait souvent en rencontre ou en atelier. Je dis aux étudiants, là, je vous donne 2 minutes, puis notez le maximum d'idées que vous pourriez faire, c'est pendant une pause de 10 à 15 minutes, pour avoir une banque. Parce qu'il y en a des fois qui me disent « je ne sais pas quoi faire ». où ils font tout le temps un peu la même affaire. Puis là, c'est là, l'équilibre est vraiment pas bon. Puis ils trouvent que leur journée, c'est comme ça finit jamais, puis tout ça. Donc, des fois, de prendre le temps de s'arrêter puis de dire, OK, ben qu'est-ce que je pourrais faire pendant mes pauses? Pas juste des trucs comme de tâches, mais vraiment
varier. Il faut que ce soit ludique. Là. Oui. Il faut que ce soit plaisant. Que l'intention, ce soit d'avoir du plaisir puis de vraiment se reposer. Là.
Puis il y en a de tous les genres. Il y en a qui font des listes numérotées puis ils tirent des dés. Puis ils prennent l'idée qui vient. Il y en a qui font des petits bouts de papier dans un bocal.
Oui, j'ai vu ça. Tu piges, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais en prendre une marche dehors, tu sais,
Mm-hmm. Comme dirait notre chère Rachel Thibault, qui est une sommité là, dans la résilience, elle suggère des petites pauses là, de 2 minutes, je pense, quelque chose comme ça, là, aux 90 minutes, comme pour sortir du mode veille. Parce que notre corps est comme un petit ordinateur. Là, si on y touche pas pendant quelques minutes, boum, on se met en veille. Bien, c'est pareil pour notre corps, finalement. Si on ne s'active pas physiquement, ne serait-ce que pour aller prendre une marche dehors, là, on n'a pas besoin de partir faire une activité au cap.
Même
là.
Aller prendre un verre d'eau dans ta cuisine, lève tout ton bureau, va marcher
monte
un peu.
Monte les escaliers. Puis... Exactement. Juste de bouger physiquement notre corps, ça le sort de son mode veille.
Ah oui.
Et là, notre cerveau est à nouveau disponible là, pour une autre période d'études.
Oui, puis il y a moyen d'étudier en étant actif aussi pour aider ça. Nous, on recommande vraiment des pauses même à chaque heure. 10 minutes à chaque heure.
Oui, c'est ça. Deux minutes par 90 minutes, c'est pas beaucoup.
C'est peu, hein? On le fait plus, on le fait plus.
Un petit peu plus. Donc, les listes, ça, c'est bon pour pas mal tout le monde. Étudiants, parents, peu importe l'âge des enfants, c'est sûr que c'est des trucs qui sont vraiment bons. Avec les bébés, enfants à très, très, très bas âge, les horaires, on recommande pas tant ça parce que là, ça va un peu partout. Mais quand les enfants sont plus grands, qu'ils vont à l'école et tout ça, ben là, c'est sûr que les horaires, ça peut être intéressant, se faire un planning d'études. Ça, l'organisation, là, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, là, 4 heures, 5 heures, je ne sais pas trop, je ne me suis jamais timée. Mais je voulais juste vous dire que nous, au service aux étudiants, on peut vous accompagner là-dessus si vous avez besoin vraiment là, de regarder plus en détail les outils, les adapter en fonction de votre réalité. Donc, n'hésitez pas là, à faire une demande à soutien.apprentissage@commercialuqtr.ca. Donc, nous, on peut vraiment regarder avec vous l'éventail des outils disponibles, s'assurer que vous les mettez en place de la façon qui vous convienne vraiment, adapter le tout. Donc, des fois, après 1 ou 2 rencontres ou 3 rencontres, ça va, tu sais, on a trouvé les outils qui nous conviennent. C'est sûr que quand les enfants sont réveillés et avec les parents, on recommande. Et si vous devez étudier, hein, parce que des fois, on n'a pas le choix, il faut étudier quand même. Quand les enfants sont là, on recommande de penser à des tâches que vous pouvez fractionner facilement, interrompre facilement, c'est sûr. Et toutes les autres tâches plus exigeantes. Donc, tâches qu'on peut interrompre facilement, juste pour ceux qui voudraient des exemples, bien, la rédaction d'un travail de session, ça peut s'interrompre un petit peu plus facilement. La recherche aussi pour un travail de session. Si vous faites des flashcards pour étudier vos cours, ça aussi, ça s'interrompt vite. Les tâches plus exigeantes, souvent, on pense aux lectures. Si on interrompt trop nos lectures, on perd le fil, on comprend plus
faut
rien.
Il faut toujours recommencer.
Exact. On a fini de lire un paragraphe, on fait « bon, je recommence ». Ou une page au complet. Et ça, ben, c'est la surcharge mentale, hein, beaucoup qui créent ça. Ou l'étude aux examens. Ben, c'est sûr qu'on essaye d'avoir des périodes un petit peu plus longues là, pour vraiment bien se plonger là-dedans. Et de prendre des vraies pauses. On en a parlé tantôt, si les enfants sont avec vous. Donc, des pauses à chaque heure. Et des fois, on pourrait déterminer avec eux qu'est-ce qu'on va faire pendant notre pause. Comme ça, ils ont hâte, ça les garde un peu, là, ça les fait patienter. Et plus les enfants sont petits, bien, c'est sûr que d'avoir une horloge, un time timer, quelque chose proche que vous pouvez vraiment leur dire « ça s'en vient, regarde le temps pour les aider. » Ouais. Si vous êtes aussi monoparental, donc faire preuve de créativité à ces niveaux-là, parce qu'on n'a pas toujours l'énergie pour étudier juste quand les enfants sont couchés. Donc,
Des fois, quand les enfants sont couchés, on a envie de se coucher, nous aussi, quand même. On a notre journée dans le corps, puis on est fatigué, là.
C'est ça. Fait que des fois, il faut trouver des moments dans la journée. Donc, ça peut être des bons petits trucs, là, pour vous aider là-dessus. Pour optimiser votre étude chaque semaine, les cours en tant que tels, la planification en 3 temps, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans un premier temps, avant les cours, on recommande 30 minutes si vous avez accès au diaporama, au contenu qui va être présenté, pour juste survoler ça un peu, vous familiariser avec le vocabulaire qui va être présenté ou utilisé. Peut-être que vous aurez déjà même des questions en tête. Si le contenu n'est pas disponible à l'avance, arrêtez-vous pas à ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui disent « mon prof, il donne juste 15 minutes avant le cours ». Bien, vous pouvez survoler vos lectures que vous aviez à faire pour le cours ou vous pouvez réviser le cours de la semaine d'avant. Arrêtez-vous pas au fait que ce n'est pas disponible. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour vous préparer. pendant le cours, c'est vraiment le meilleur moment pour en profiter. Arrangez-vous pour être au maximum de vos capacités. Profitez des pauses, encore une fois, comme on le disait tantôt, pour vous réénergiser, cibler les indicateurs d'importance. Si vous vous sentez fatigué, prenez plus de notes. On ne prend jamais trop de notes. Prendre des notes, c'est juste pour se garder réveillé aussi. Et c'est le travail que vous allez en faire après qui va être important. Donc, le troisième temps, c'est le après. Donc, 30 minutes après pour survoler vos notes, les réviser, vous assurer surtout que vous comprenez le contenu. Et si vous reste des questions, bien, de les poser ou de faire des recherches personnelles. Donc, 30 minutes avant, après, que vous pouvez faire dans un délai de 24 heures, ça n'a pas besoin d'être collé-collé sur le cours avant ou après. Si votre cours est à 8h30 le matin puis vous avez des difficultés à vous réveiller, bien, faites-le le soir avant ou la journée avant. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que plus c'est rapproché, plus c'est payant au niveau de la mémoire. Bon, gardez ça en tête, mais pas de stress. 24 heures avant, après, c'est correct.
C'est vraiment intéressant. C'est pas quelque chose que j'avais en tête. Véronique, tu nous amènes ça, cet éclairage-là, puis je trouve ça franchement intéressant. C'est pas quelque chose que j'aurais eu en tête d'emblée, même que dans mon parcours universitaire, je suis pas certaine d'avoir utilisé cette stratégie-là.
Je t'avouerai que moi non plus.
Mais maintenant que je le sais, avoir su, j'aurais fait ça comme ça. Donc oui, c'est super intéressant. Puis ce que j'aurais aussi envie d'ajouter, une fois dans le cours, des fois, c'est tout ce qui est distraction hein, qui nous permet de moins bien intégrer la matière. Donc peut-être d'avoir en tête, qu'est-ce qui me distrait moi dans le cours. Dans mon cours, est-ce que c'est mon téléphone? Est-ce que c'est le bruit des autres? Choisir stratégiquement peut-être un endroit où se placer dans le cours. Si moi, je sais que je suis distraite par un peu ce que toutes les autres gens font, bien, se placer en avant. Ou au contraire, moi, je ne suis pas bien avec l'idée d'être en avant parce que, bref, pour plein de raisons, où est-ce qu'on s'assoit? Si on a besoin d'être stimulé davantage, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disaient, moi, j'ai vraiment besoin de bouger là, dans mon cours, puis je peux pas, puis bien, tout ce qui est fidget, hein, des petits bidules avec lesquels on peut jouer, qu'on peut canaliser notre énergie dans ces petits jouets-là pour favoriser l'apprentissage et favoriser l'intégration de matière. Là. Donc, l'idée, c'est un peu de se connaître puis d'appliquer des stratégies qui nous ressemblent.
Oui, puis l'environnement d'études, c'est autant en classe qu'à la maison, peu importe où vous allez étudier. Donc, c'est vraiment toujours de penser qu'est-ce qui, moi, va m'aider. Comme, par exemple, le brain dump, là, c'est partout. Là. Vous pouvez, en classe, avoir votre petit calepin à côté de vous, puis si vous avez des pensées, vous les notez, ou si vous avez des trucs que vous voulez ajouter sur votre to-do list, les mettre là, les pauses, sortez, levez-vous, faites autre chose. Profitez-en pour aller jaser avec vos enseignants, ça les rend aussi... plus conscient de votre réalité, ils voient que vous êtes motivé. Donc, s'il arrive quelque chose, tu sais, souvent les étudiants qu'on voit qui sont là. Vraiment, là, le temps en classe. Donc, mine de rien, là, avec la méthode en trois temps, vous avez revu le même cours trois fois en à peu près 48 heures, si, mettons, vous prenez le 24 heures avant-après. Donc, au niveau de la mémoire, rendu aux examens, c'est vraiment payant. Là. C'est vraiment efficace.
Je me questionne à savoir, au niveau de l'endroit d'études, hein, qu'est-ce Où est-ce qu'on est